les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone pour la saison des 15 ans. Nous sommes de retour à Morges en Suisse au festival Le Livre sur les quais. Retour en public aussi. Bonjour Morges. On est très heureux de vous retrouver et de vous voir enfin après ces mois d'émission loin de vous physiquement. Merci pour votre fidélité. Vous êtes 40 car c'est la jauge maximale autorisée. Vous allez faire du bruit donc pour 200, 300. Nous sommes dans les jardins du château au bord du Léman, le lac éclaboussé de soleil. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Un sommaire chargé pour une émission de fête. La rentrée littéraire est à l'honneur en Suisse avec Serge Joncourt qui publie son nouveau roman. Une critique réaliste de notre société et de l'Europe qui n'a pas su prendre le virage écolo au début des années 80. L'auteur et dessinatrice helvétique Albertine a reçu en mai dernier le prestigieux prix Andersen, considéré comme le Nobel de la littérature jeunesse. Elle vient de sortir un nouvel album, un livre sans texte qui entraîne les enfants dans une chasse au trésor. Albertine qui sera en plateau avec Mathias Malzieu qui vous présentera en avant-première un livre poétique hommage à Boris Vian qui sortira au mois d'octobre. Le chanteur, auteur et réalisateur français se lance dans une nouvelle aventure encore conçue avec ses yeux d'enfant. Et puis il sera question d'un court roman paru juste avant le confinement, le pire moment pour la sortie d'un livre. Le récit d'Adrien Gygax est osé et lumineux. Nous lui donnons une nouvelle chance en cette rentrée ici à Morges. La semaine dernière, avec cette émission consacrée au Liban et les nombreux invités en plateau et en duplex, vous n'avez pas entendu les coups de cœur et coups de gueule des libraires. Rassurez-vous, ils reviennent cette saison avec même de petites confidences au cours de la saison. Commençons donc cette émission en public par un coup de gueule avec Mathieu Colombe en France qui est très déçu par un livre de la rentrée littéraire. Ça se passe dans sa librairie Goulard à Aix-en-Provence. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel. Alors, c'est le dernier livre de Muriel Barbery, Une rose seule. En fait, il fait très débat au sein de l'équipe. Je fais partie, en fait, de ceux qui ont été vraiment, vraiment déçus. On retrouve son écriture, ça, y a aucun problème. Mais je trouve qu'il manque une certaine finesse de propos qu'on retrouvait d'habitude chez elle. Je pense qu'elle enfonce des portes ouvertes et qu'elle rentre un peu trop facilement dans les poncifs pour celui-là, en tous les cas.
D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, il y en a d'autres à lire. Hein. Muriel Barbery, qui a eu un gros succès avec Le Hérisson, qui avait été adapté au cinéma. Magnifique livre, magnifique film aussi. Merci Mathieu, un coup de gueule ne va jamais sans un coup de cœur. Bonjour Yasmina Giaquinto.
Et bonjour.
Vous êtes libraire, pas très loin d'ici, à Martigny, dans la librairie du Baobab. Et vous êtes venue en voisine avec un coup de cœur dans le sac.
Oui, un grand coup de cœur. Vous savez, en période de rentrée littéraire, les sites des éditeurs, les blogs, les réseaux sociaux regorgent de ruses marketing pour parler du livre incontournable. Dans ce contexte, j'ai parcouru le travail de recherche de Jérôme Mézeau, Faire l'auteur en régime néolibéral, paru chez Slatkin. On y découvre l'histoire commerciale de certains ouvrages. Et comme lui, je m'interroge sur ce qui est important de dire d'un livre avant sa sortie. Et je me conforte toutefois en me disant que les livres que j'ai le plus aimés n'ont bénéficié d'aucun surenrobage médiatique, mais ce sont leurs mots, la construction de leur intrigue que j'ai affectionnée. Et tant pis si je n'ai jamais été amie de leur auteur sur les réseaux sociaux.
Les rudiments de marketing littéraire de Jérôme Mézeau aux éditions Slatkin. Merci beaucoup Yasmina. Deux autres libraires vont nous accompagner tout au long de l'émission. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique depuis la librairie La Licorne. Et au Canada, c'est Katia Courteau, libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Oui, très bien.
Elle est loin de nous aujourd'hui, hein, de la Suisse au Canada, il y a pas mal de kilomètres. Merci en tout cas d'être avec nous, vous restez bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Camille Laurence, prenez le
Bonjour.
Micro. Bonjour Madame la Présidente, vous n'êtes pas
mais
encore
oui.
Présidente de l'Académie Goncourt, car vous venez d'y entrer, mais présidente d'honneur de cette 11e édition de ce livre sur les quais, festival qui a failli être annulé comme plein d'autres. On pense d'ailleurs à celui de Nice, annulé en juin, reporté en septembre, et on vient d'apprendre que finalement il n'aura pas lieu. On devait y aller le 18 septembre pour un reportage, donc ça ne se fera pas. Camille Laurence, soutenir les festivals qui résistent au Covid, c'est un engagement évident. temps, un engagement nécessaire ?
Ah oui, complètement, parce que je suis amoureuse de la littérature, j'aime lire depuis l'enfance, j'aime transmettre, puisque j'ai été moi-même professeure de lettres.
Et, oui, oui.
Et donc, oui, c'est l'occasion, un festival, c'est partager à la fois avec les autres écrivains et puis surtout avec les lecteurs et lectrices la passion des livres.
Alors certains se posent la question en ce moment, faut-il soutenir, résister ou bien laisser passer cette crise en se disant la santé d'abord, on verra ensuite, en résumé, faut-il prendre le risque quoi ?
Non mais ça n'est pas incompatible, je pense que si on prend toutes les précautions comme c'est le cas ici, on peut à la fois profiter du festival et ne pas prendre de risque pour sa santé.
C'est possible. En tout cas, nous,
oui,
on est là.
J'espère,
on prend le
nous
risque,
là,
mais en équipe réduite. Je pense d'ailleurs à l'un de mes collaborateurs qui m'accompagne partout et qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on s'adapte, on réduit les risques et on soutient la chaîne du livre. C'est important. En parlant de la chaîne du livre, Camille Laurence, comment ça se passe à l'Académie Goncourt pour vous, là?
Ben, vous savez, je n'ai pas encore beaucoup vu mes amis de l'Académie Goncourt puisque j'ai été élue en février et qu'en mars, nous sommes confinés. Donc, je les ai vus sur l'écran par Zoom, mais ça se passe plutôt bien. Et puis là, pendant tout l'été, nous avons échangé par mail des notes de lecture très, très argumentées, je dois dire. On travaille beaucoup à l'Académie Goncourt.
Une petite indiscrétion ou pas encore ?
Ah non.
Pour la première liste.
Ah non, non, non.
Ah si.
Ah mais d'abord, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'il y a des avis et des goûts très différents. C'est vrai que ça va être compliqué de faire une liste. Forcément, il y avoir des déceptions pour les uns et les autres. Mais je ne sais pas encore.
Alors, on s'attend à une femme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, vous êtes une féministe engagée, Camille Laurence. Vous le montrez encore en cette rentrée avec votre nouveau roman Fille. On va en dire quelques mots tout à l'heure. Vous allez défendre, vous l'avez dit d'ailleurs, les auteurs, eux, les écrivaines. Et Didier Decoing, qui est le président de l'Académie Goncourt, a confié en août dans la librairie francophone estivale que le prix Goncourt cette année irait sans doute à une femme.
Ah, bah, j'ai pas, il s'est beaucoup avancé parce qu'en fait,
oui.
Mais effectivement, moi, j'ai à cœur de défendre, les livres, les écrivains et les écrivaines, mais je ne ferai pas pour autant de discrimination positive.
Ouais,
ça me semblerait vraiment bizarre et je ne crois pas que ce sera le cas à l'Académie Goncourt.
Mais vous êtes pour une femme,
maintenant, c'est vrai qu'il serait temps qu'il y ait un peu plus de femmes et dans le jury et dans les lauréats.
Oui, donc vous vous attendez à
une lauréate.
Oui, une lauréate cette année, probablement. Bon, Serge Goncourt, bonjour.
Bonjour.
Si vous êtes dans la liste du Goncourt qui sera publiée le 15 septembre, ne vous faites aucune illusion, c'est une femme cette année.
Très bien.
Voilà. Non, mais au moins, vous n'avez pas de stress, c'est réglé, quoi.
Non.
Bon. Camille Laurence, un mot sur votre nouveau roman qui rassemble une bonne part, d'ailleurs, des grandes lignes directrices de votre œuvre, avec un regard sur la condition féminine. Qu'est-ce que c'est que d'être une fille aujourd'hui ? C'est un peu la question que vous posez. Qu'est-ce que c'est être une fille, Camille ?
Ah bah ce serait un petit peu long de répondre à cette question, mais c'est à la fois le roman, c'est à la fois qu'est-ce que c'est qu'être une fille et qu'avoir une fille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet du féminin quand on est soi-même une fille, avec la différence des générations. Bah être une fille, c'est quand même encore malgré tout, peut-être moins évidemment que dans les générations précédentes, la génération, j'ai grandi dans les années 60, c'est être malgré tout quand même toujours soumise au patriarcat qui reste très actif et surtout dans la langue.
C'est
et ça, dans la langue, on n'en a pas forcément conscience. Mais toute la langue française est faite de minorations ou d'aspects péjoratifs du féminin.
Et dans la grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin.
Voilà, on apprend cette phrase dès la petite école.
Mais alors pourquoi alors vous avez choisi, vous, comme pseudonyme, Camille Laurence, un prénom épicène ? Parce que votre vrai nom, c'est Laurence Ruel,
oui.
Je crois.
Ouais. Oui, sans doute que ça tient à cela aussi, parce que quand j'ai écrit mon premier roman, donc j'ai pris ce pseudonyme, parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'on sache si...
J'étais un homme ou une
femme.
Eh oui.
Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que, comme j'étais complètement inconnue, c'était mon premier roman, on n'avait jamais vu de photo de moi nulle part. Certains journalistes ont écrit que probablement ce roman était l'œuvre d'un homme compte tenu de la maîtrise qu'il montrait.
Donc. Oui, donc c'était réussi. Votre coup était réussi.
Le coup était réussi. La démonstration est parfaite.
Bon, il y a plein de choses dans ce livre. Vous montrez aussi que la femme aujourd'hui, dans notre société, c'est une personne que l'on siffle dans la rue, ou que l'on touche l'air de rien dans le métro, comme si c'était normal, comme si c'était acquis dans les mentalités, et vous le développez comme ça sur tout le roman. Bon, merci Camille Laurence, vous allez rester avec nous, vous restez avec nous ?
Oui, bien sûr.
Très bien, vous allez entendre un bon écrivain, un auteur qui pourrait avoir le Goncourt si cette année le Goncourt n'était pas destiné à une femme, mais ça ne nous regarde pas. On va accueillir Serge Joncourt. Non, pas de fake news ici. Pas ce mot-là, en plus en anglais. Bon, votre roman Fille est paru chez Gallimard, je le dis au passage. Voici, pour accueillir Serge Joncourt, une petite transition musicale qui va vous surprendre.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le groupe ABBA, cité par Serge Joncourt dans son livre. Il adore, il danse presque, Serge.
Oui, ça me remue. Oui, il y a comme un parfum des années 80. Enfin, je trouve ça finalement très, très, très beau. Pardon. Ouais. Merci de ce cadeau.
Mais je vous en prie, regardez un peu de refrain. Nature humaine donc, Serge Joncourt, un roman sur le monde paysan, sur la campagne et l'évolution de la société entre la fin des années 70 et le début des années 2000. On pourrait le lire comme ça, sauf que c'est plus que ça, Serge. L'air de rien, vous avez écrit un roman révolté. Comment a-t-on pu impliquer et parfois obliger les paysans à contribuer à la destruction de la terre ? La mondialisation a changé notre rapport à la nature.
Oui, ça c'est un des aspects. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est cette sorte de charnière de temps. Vous voyez, l'an 2000, moi, vu des années 80, 70, voilà, je suis né dans les années 60, donc j'avais déjà un regard à partir des années 70 sur l'an 2000, qui était une sorte de perspective comme ça, tout à fait folle, inatteignable.
Ouais.
Il y avait de temps en temps des numéros spéciaux dans les magazines, on voyait des choses folles. Et petit à petit, ben, on y est arrivé à cet an 2000, je ne vous l'apprends pas. Et on l'a même dépassé.
Ouais.
Et il n'empêche que ça correspond et ça coïncide à une forme de tension dans ce rapport entre l'homme et la nature. Et comme si d'une certaine façon, on avait oublié que l'homme et la femme font partie de la nature. C'est ça qui me semble fou. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux domaines, les humains et la nature. Alors que non, tout ça, c'est un tout.
Oui, et on n'a pas pris le virage. C'est ce que vous montrez avec une famille sur trois générations. Pendant 30 ans, on aurait pu sauver la nature et la terre dite nourricière, mais on a préféré le confort de la mondialisation.
Effectivement, il y a cette terre, il y a cette famille, il y a un garçon et trois filles. Voilà. Et les filles ont justement la liberté d'aller voir ailleurs, parce qu'elles en ont envie. Par contre, pour ce qu'il s'agit de reprendre la terre, il est un peu sous-entendu que ce sera au garçon de le faire.
Oui, Alexandre.
Voilà, parce qu'il est bon, voilà, il soit 10 ans, il aurait les épaules, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, ça tombe pas si mal, parce que lui, il a un peu envie de ça. C'est-à-dire que il y a une dimension qu'on oublie un peu quand on parle d'agriculteurs, puisqu'on dit plus paysans, c'est qu'ils sont quand même des êtres au contact de la nature d'une façon permanente. Moi, je les observe dans ma famille, issus d'un milieu rural, ils vivent dans la nature au jour le jour. Ils ne découvrent pas cet environnement-là, vous voyez. Et moi, en étant proche d'eux et en les visitant souvent, j'ai vu au travers de ces années, pourtant c'est pas grand-chose, on est tout jeune. Quand on est né dans les années 60, on est jeune. Mmh. Encore un peu. Voilà. Hein, si... oui. Faites pas non.
Bon. J'ai rien dit, moi. Enfin.
Non, bon, très bien, très bien, très bien.
C'est Camille Laurence.
Et il n'empêche que, même à cette échelle humaine, qui est toute simple, toute modeste, eh bien, cette nature, on la voit changer.
Ouais.
Moi, cet été, dans le Lot, il faut savoir qu'il n'y a plus de buis. Voilà, ça, c'est depuis 2 ans, la pyrale du buis. Il a décimé tous les buis, qui sont quand même des éléments du décor. Et puis, les chênes étaient marrons dès le début août. Ça questionne tout ça quand même.
Ouais. Et il y a la lutte. Alors vous montrez ces luttes en fait, parce que le fils de la famille, donc Alexandre, qui va reprendre l'exploitation familiale, va se retrouver impliqué dans les violences de l'époque. Ces attentats pour lutter contre le capitalisme, notamment la lutte passait souvent par des bombes artisanales en France. Et il y a un vieux voisin, un ami de la famille, Fabrier, qui va lui dire quelque chose d'assez lucide finalement. Il dit, tu sais ce qui compte quand on rejoint une lutte ? C'est d'abord de savoir avec qui on lutte. Bien souvent, les gars se lancent dans la lutte parce qu'ils sont creux. Ils raisonnent vide, rarement par pure générosité.
Oui, ça j'avais envie de lui faire dire.
De le placer.
Pour le penser très fort moi-même. Ouais. Oui. Le vieux Cressac, il est un peu emblématique de ce paysan qu'on a connu, hein, qui de certaines façons refusait, alors ça c'est un voisin de ma grand-mère, il refusait le téléphone. Il refusait même l'idée qu'on fasse passer les poteaux du téléphone pour la famille Joncourt devant son champ à lui. Hein. Ça semblait fou, il n'était pas normal ce monsieur. Et il disait des tas de choses comme ça, sur les périls, sur les dangers. Et avec le recul et avec le temps, il avait tort, mais pas tant que ça.
Pas tant que
c'est
ça
un peu. Ouais. Donc ce roman, en embrassant comme ça, mon idée c'était d'aller jusqu'en 2020, jusqu'à nos jours, mais finalement, bon, bah, vous savez, ça épuise de faire un roman. Et puis 25 ans comme ça, ça embrasse pas mal.
Oui, mais ça fait écho. Ça fait écho à tout ce qu'on vit aujourd'hui. On va terminer d'ailleurs avec une phrase incroyable. On va laisser la place à nos libraires, Serge Joncourt, avec Yasmina Giaquinto, qui est en plateau avec nous, ici, au bord du Léman, avec ce soleil incroyable sur Morges. Avez-vous aimé ce roman, signé Serge Joncourt?
Oui, j'ai aimé ce roman. Vous avez réussi à faire de ce roman ce que la littérature doit être pour moi, c'est-à-dire une interrogation sur le monde, une trace de nos existences et un vrai voyage. La force de votre texte est de traiter de sujets préoccupants avec une forme de légèreté, dans un style travaillé et une belle intensité. Mais ce que je retiens surtout, c'est que la transformation de nos campagnes nous concerne tous. Ceci était vrai dans les années 80, mais il est encore très fortement aujourd'hui. Chapeau bas, monsieur Joncourt.
Chapeau bas, monsieur Joncourt.
Merci, voilà. Je suis détendu d'un coup.
Ah bah ouais, monsieur Joncourt, en plus.
C'est fébrile.
Alors, Déborah Damblon, avez-vous aimé monsieur Joncourt?
Eh oui, monsieur Joncourt, j'ai aimé votre livre, parce que je trouve que c'est parfois bon de se retrouver dans un long roman, et puis surtout quand la langue en est ample et belle, comme c'est le cas ici. Votre force, pour moi, se niche dans la réalité des émotions, dans sa sincérité, parce que on est à la fois plongé dans votre récit, et puis dans nos propres souvenirs, par une émotion qui, elle, est unique. Vous êtes juste, et c'est par cette justesse que vous ferrez le lecteur, que vous le menez là où vous voulez qu'il lise. Et jamais, à mon sens, le mot fresque, dans tous les sens du terme, n'a été aussi bien adapté.
Voilà, vous êtes magnifique, hein, pour les libraires, Serge Joncourt. Je montre ce livre au public, Nature humaine, de Serge Joncourt, que vous pouvez applaudir, hein, parce que il a réussi à passer le cap des libraires. Un commentaire, Serge? C'est vrai qu'il y a plein de souvenirs dans ce livre. Vous racontez tout ce qu'on a vécu, en fait, avec la marée noire d'Erika, la crise de la vache folle, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à Monaco. C'est vrai, hein, moi je suis né à Nice. À Nice, on n'a pas eu de problème. la tempête dévastatrice aussi de fin décembre 1999 en France et en Suisse, à 4 jours de l'an 2000. Bref, tout est là. Et tout annonce ce qu'on va vivre et ce qu'on vit en ce moment.
Oui, cet épisode de la tempête de fin décembre 1999, c'est quelque chose dont je ne me suis toujours pas remis. Parce que j'étais dans le Lot, dans cette campagne, et on a passé des heures, une nuit à trembler, et à se demander si les maisons n'allaient pas s'envoler avec les arbres. Bon, ben, et finalement, le réveillon, on l'a fait, un réveillon qu'on avait prévu de longue date, parce que, encore une fois,
hein,
on changeait
de
millénaire, ouais. ça n'arrive pas à toutes les générations.
Non.
Ben, ce réveillon, c'est en 2000, on l'a fait à la bougie, et en essayant de récupérer la lampe tempête de la grand-mère, qui était quelque part dans la grange. On n'avait rien à mettre dedans, donc on a fini à la bougie. L'an 2000, on l'a passé à la bougie, et ça, c'est quelque chose. Et on n'a pas eu l'électricité pendant 15 jours. Hein. Ouais. Donc ça...
Et ça annonce tout ce qu'on a vécu après, tout ce qu'on vit en ce moment. Il y a une phrase très troublante. Par extrapolation, on s'y retrouve complètement. Il y a le vieux voisin, donc, qui dit à Alexandre « Tu verras un jour, les humains finiront par la choper, la vache folle. Un peu comme si on se refile un rhume. Et ce jour-là, je te prie de croire que ce sera la panique. »
Oui, bah parce que
on y est.
La vache folle, on
c'est
l'a
pas la vache folle, mais coronavirus.
On l'a oublié, mais quand on était dans un titre de consommateur et puis à titre d'éleveur, comme il y en a dans ma famille, c'était quelque chose d'assez inouï, inimaginable d'abattre 2 millions de vaches comme ils l'ont fait en Grande-Bretagne.
Enfin, mais c'était moins pire qu'aujourd'hui.
Et c'était moins pire, mais en même temps, c'était comme une amorce. Et de toute façon, cette prudence-là, ce regard qu'on a quand on est un peu initié au monde de l'élevage, c'est que les humains sont quand même... On est un gigantesque troupeau. Moi, je nous ai vus ce matin prendre le train, nous glissant dans les portillons. J'avais les images du chevrier, des chefs du père Cressac, oui. Et puis des moutons d'un autre. Vous voyez, bon, bah, sauf qu'ils ont, eux, ils n'ont pas la valise, ils sont plus malins que nous. Oui. Ils ont tout sur eux, si vous voulez. Bon. Et je nous vois toujours un peu comme des bêtes, un peu affolées. Et oui, alors, quand on est... voilà, les vaches, comme ça, on ne les mélange pas. Quand on ramène une bête d'un concours, on la met en quarantaine. Dans toutes les fermes, il y a un local de quarantaine.
Ouais,
enfin, c'est un vocabulaire que je ne découvre pas.
Quoi. Et qu'est-ce qu'on a raté, Serge Joncourt, dans ces années 80, ces années 90?
Moi, je suis un peu méchant parce que je...
Allez-y, soyez méchant pour terminer.
Je règle un peu mon compte avec l'aérien. Je n'aime pas l'avion. Je trouve ça indécent de sacrifier comme ça les paysages, la géographie. Là, on est venu depuis Paris, en ce qui me concerne. Je l'ai épousé, ce décor. Vous voyez, je suis pas...
D'accord, mais qu'est-ce qu'on a raté ? On a utilisé trop l'avion, par exemple, c'est ça ?
Déjà, les zoonoses, c'est pas nouveau. Enfin, les maladies transmises par les animaux. Il y a toujours eu cette précaution par rapport aux renards.
D'accord. Mais quel virage
de renards, de chats.
Virage on a manqué, Serge ? C'est la lutte qui était trop dispersée, comme on le voit dans votre livre, qui était trop chaotique.
Alors, pour essayer de faire simple, c'est un peu ce que je vous disais au début. C'est considérer qu'il y avait d'un côté les êtres humains et de l'autre la nature.
Ouais, c'est
pas du tout ça. C'est un tout. Bon, voilà.
Bon.
Pardon.
Non, mais c'est ça. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous. Nature humaine, donc roman flamboyant, est paru chez Flammarion. Merci. Peut-être sur la première liste du Goncourt, nous verrons. J'arrête là. À suivre, la rencontre inédite entre Albertine, prix Andersen 2020, et Mathias Malzieux pour une séquence jeunesse et poésie, ici à Morges, au festival Le Livre sur les quais. Avant cela, voici la chanteuse Clou dans la librairie francophone.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien, mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien, tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint, le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche, mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien, jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tu en joues, tu en joues, des ombres chinoises, des nuits à crier au loup, tu t'en fous, tu t'en fous, pleine et l'ardoise, le dupe c'est toi avant tout, le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche, mais jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Tout va, rien ne se voit, tout va, tout va, rien ne se voit, rien ne se voit, oh, d'ici on. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien, jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien, d'ici on ne voit rien, jusqu'ici tout va bien, d'ici on. Jusqu'ici tout va bien.
C'était Clou dans la librairie francophone. Jusqu'ici tout va bien, c'est le titre et c'est aussi l'ambiance ici à Morges en public.
Les médias francophones publics.
Radio France et TVF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Albertine.
Bien le bonjour.
Bien le bonjour. Vous avez reçu le prix Andersen en mai dernier, le prix international le plus prestigieux décerné à un auteur et un illustrateur pour enfants, et ce pour l'intégralité de votre œuvre. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Pendant le confinement, c'est ça ? Pendant le confinement ?
Voilà, je remontais de mon jardin avec des bottes en caoutchouc et je ne m'y attendais pas du tout. Donc on m'a annoncé ça au téléphone en anglais, j'ai rien compris. Et j'ai cru qu'on me vendait un canapé IKEA.
Il parle suédois, vous savez, normalement.
Et voilà. Et donc, voilà, j'ai dit juste « Oh my God », parce que je crois que c'était quelque chose d'important.
Oui.
Et puis, voilà, les choses se sont... J'ai mis un peu de temps à réagir,
quand même. Ouais. Vos livres, en tout cas, laissent une grande place à l'illustration. Vous êtes une référence depuis de nombreuses années. À l'image du dernier paru, très détaillé, qui laisse les enfants et les parents imaginer finalement leur propre récit à partir de ces grands dessins colorés. C'est l'anniversaire de Séraphine et elle a plein de personnages autour d'elle. Il faut retrouver les personnages. C'est pas si simple pour les enfants, ni pour
nous. Alors ils sont très speed, les enfants. Ils pigent tout de suite et ils ont un regard acéré. Moi, je mets une demi-heure pour trouver le lapin. Les enfants, eux, sont extrêmement rapides.
Moi, c'est le poisson rouge que j'ai eu du mal.
Oui, c'est un peu difficile. Mais en fait, j'ai fait ce livre parce que je travaille avec Germano, mon amoureux,
ouais,
l'amour
Germano
de ma
Zulo,
vie. Ouais, qui est écrivain. On travaille ensemble depuis de grandes années et nous faisons beaucoup de livres ensemble. Mais il est plus lent que moi, bien sûr, parce que l'écriture, ça demande du temps, ça demande de se relire, hein, c'est profond, on creuse quand on écrit. Moi, je creuse pas, je vais très vite. J'ai besoin de rapidité. Donc ce livre, je l'ai fait entre deux albums.
Voilà, toute seule, parce qu'il n'y a que des dessins.
Voilà, c'est un livre récré.
Voilà, on part dans une chasse au trésor, hein, en quelque sorte. Il y a un côté à la fois naïf et surréaliste dans vos dessins, Albertine. On pense à l'univers des mimes quand on regarde vos albums.
Ah, ça me plaît assez ce que vous dites, parce que je pense que j'observe depuis très longtemps, depuis toute petite. Le langage m'intéresse assez peu, je suis plutôt quelqu'un, une regardeuse. Et je regarde l'aspect physique des gens, leur attitude, la façon dont ils s'expriment. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai une sorte d'œil photographique. Je pourrais vous dessiner Serge Joncourt dans 5 minutes, fastoche, quoi.
Ah ben d'accord, oui. Ah oui, vous allez le faire. On va le prendre en photo, on va le mettre sur Internet, oui. Non mais c'est vrai, vous pouvez le faire.
Oui, bien sûr.
Génial, donnez-lui une feuille.
Mais j'ai pas mes crayons.
On va vous donner un crayon, vous bougez pas.
Oui. Donc ouais, en effet, je pense que le corps parle beaucoup et exprime beaucoup. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire créer une narration silencieuse, muette.
Bon, on va laisser la place à nos libraires, Albertine. Il y en a deux qui vont parler de votre album Séraphine, l'anniversaire, là, que je montre au public, un album très coloré, paru donc en cette rentrée à la joie de lire. Déborah Damblon est notre spécialiste jeunesse. A-t-elle aimé votre œuvre ? Réponse tout de suite, Déborah, pour la Belgique.
Non, j'ai détesté Emmanuel. Bien sûr que j'ai adoré, bien sûr, parce que les choses soient bien claires quand même. Moi, je veux vivre toute ma vie dans un livre d'Albertine. Parce que les livres d'Albertine, ils parlent à tout le monde pour peu qu'ils aient le cœur ouvert comme moi. Et parce que dans les livres d'Albertine, personne n'est lisse et pourtant tout le monde est beau. Et puis parce que dans les livres d'Albertine, on rit, on a la larme à l'œil, on est triste, on est heureux, comme dans la vraie vie, mais avec du beaucoup, beaucoup plus beau papier peint. Et puis surtout parce que je rêve d'avoir toute une collection de robes, comme dans les livres d'Albertine.
C'est une bonne idée, ouais, pourquoi pas. Allez, on va donner la parole à Mathieu Colombe. Je me lève, je viens vers vous, Albertine. Regardez, une feuille, un stylo. C'est pas votre crayon, hein, je suis désolé. Hop, voilà. Comme ça, c'est pour Serge Joncourt. Allez-y, Mathieu, qu'avez-vous pensé de l'œuvre d'Albertine ?
Eh bien, bah oui, déjà, alors, on va parler de Séraphine. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment très, très coloré, c'est rempli de détails. Il y a vraiment de quoi passer un bon moment à chercher plein de trucs avec les enfants, hein, pendant longtemps. Mais je pense que son talent vient aussi du fait qu'elle a une expertise de la question, puisqu'elle s'est accompagnée les enfants du lever au coucher, puisqu'elle fait aussi de très beaux livres beaucoup plus calmes pour le soir.
Ouais, c'est vrai. Elle fait de tout, Albertine, parce qu'elle fait même des dessins érotiques. Alors, quand on dit ça, quand c'est sur le papier, c'est pas du tout compatible avec la littérature jeunesse, mais elle lève les yeux au ciel. Mais vous dites, de toute façon, moi, mon dessin coquin, le premier, je l'ai fait à l'âge de 7 ans.
Oui, c'est vrai. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a Tom Jungerer.
Oui, Jungerer, exact.
Oui, absolument.
Qui a eu le prix Andersen, d'ailleurs, avant vous.
Absolument. Et non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la narration et c'est le dessin. En fait, je dessine tous les jours, 12 heures par jour, même le dimanche. Je ne sais pas ce que c'est qu'un temps de vacances. Pour moi, ça fait partie, c'est vital, quoi. Donc, la relation à l'érotisme, il fait partie du corps, de l'élément vivant de l'humain.
Ouais, ouais.
Et ce désir-là, je me suis tout de suite, très vite questionné, même enfant, sur le désir. C'est quelque chose qui est tout à fait lié.
Mais vous le dissociez forcément, et vous le faites sans problème, ça.
Oui, mais il n'y a aucun problème pour moi. Ouais. C'est vrai que ça pose souvent, c'est souvent la question chez les journalistes, de cette question-là, mais elle est tout à fait... c'est une envie de raconter quelque chose et de raconter à ce moment-là, voilà, un point de vue... Et voilà, alors c'est clair qu'on va pas, on n'est pas dans le même rayon en librairie.
Non, hein. Il vaut mieux pas, non.
Mais pour moi, il n'y a pas de différence.
Hein. Mmh. Ouais. Bon, Albertine, je vous présente Mathias Malzieu. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Auteur pour la jeunesse aussi, pour adultes également, chanteur et musicien du groupe Dionysos, réalisateur de films adaptés de ses livres, comme le dernier en date, Une sirène à Paris, sorti le 11 mars dernier. Mauvaise pioche, Mathias.
Bad beat de poker.
Les cinémas en France ont fermé le 14 mars.
Voilà, exactement. Ouais, triple bad beat de poker pour moi, parce
avec un avion qui passe.
Justement. Voilà, voilà, c'est toujours comme ça. Dès que je prends la parole, il se passe un truc. Dernier film que j'ai fait, j'ai mis 6 ans à le faire et je suis rentré en chambre stérile le jour de la sortie.
Finalement,
mais que pour moi.
Ouais.
Et là, du coup, j'ai augmenté la fréquence de drame.
Pour la mécanique du cœur.
J'ai mis toute la France et le monde entier en confinement avec mon long métrage que j'avais travaillé pendant 4 ans, adapté justement d'un roman que j'avais écrit également. J'avais fait la musique, on devait partir en tournée et tout. Et tout était prévu pour le mois de mars.
Formidable.
Donc, du coup, d'un mal pour un bien, parce que bon, comme un peu tout le monde, j'ai été un peu séché, et puis au bout d'une semaine à me coucher tard, à regarder les chaînes info, j'ai fait bon, ça suffit. Maintenant, je prends une douche émotionnelle et je me remets au travail. Et du coup, j'ai pris ce temps ralenti pour écrire
le livre dont on va parler en avant-première.
Par exemple, oui, j'en ai écrit plusieurs en même temps. J'étais heureux de retrouver cette liberté-là.
D'accord.
Mais la poésie, ouais.
Alors, juste avant d'en parler, vous portez un soin particulier à l'esthétique de vos films. C'était le cas pour les clips de Dionysos aussi. Les illustrations d'Albertine, forcément, ça doit vous parler.
À fond.
Vous connaissez ?
Je découvre. Et ce que j'ai vu me plaît beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la façon dont vous en parlez. La passion et le côté décloisonné aussi. Parce que justement, moi, je le vois, le pont entre l'érotisme et le côté enfantin, parce que le côté enfantin, c'est pas la régression, c'est le désir non filtré. Donc forcément, il y a une part d'érotisme dedans. Et alors, on met pas dans le même rayon, mais on peut mettre à côté quand même dans sa tête ou dans son cœur, je pense.
Bon, vous publierez bientôt le 7 octobre un nouveau livre. On va en parler donc en avant-première, Mathias Malzieu. Merci beaucoup d'avoir offert ça à la librairie francophone. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse qu'on vit le fantôme de Boris Vian. Dans vos rêves, il vient vous mettre en garde face à ce dérèglement.
Oui, en fait, lui, il a connu une fée dans sa véritable vie. Ursula son ourson, comme il l'appelle dans Je voudrais pas crever. Et il m'est arrivé une histoire de coup de foudre, le truc le plus extraordinaire et le plus normal du monde, hein, un petit peu comme un accouchement. Et du coup, j'ai commencé à écrire des poèmes pour cette personne qui m'avait foudroyé joyeusement. Et ça me déréglait, en fait. Ça déréglait tout ce qui m'arrivait. Et j'avais besoin comme d'un guide. Et donc, je me suis amusé à convoquer, à me dire qu'un expert en fées et en féerie comme Boris Vian pouvait me donner des conseils et venait dans des rêves comme ça me donner des petits conseils.
Alors, la rencontre avec une fée et la prophétie de Boris se concrétise dans ce livre. Vous écrivez « Une fée, c'est fragile, on la nourrit de poésie ». Alors du coup, il y a le texte qui raconte, le fantôme qui vient vous hanter, et en même temps, des poèmes, des fragments de texte, des illustrations.
Ouais.
C'est assez drôle, assez osé. Alors j'ai eu la chance de le lire avant tout le monde, deux de nos libraires aussi.
Ah,
il y a de l'érotisme, on va en parler. Ça vient d'où cette idée-là de faire un livre comme ça ?
En fait, ça vient de l'idée de ne pas en faire. Hein. C'est-à-dire l'idée de faire des surprises au jour le jour pour la fée en question. Et après, c'est une rencontre. Moi, je fais aussi la direction artistique d'un théâtre à Paris qui s'appelle Les Trois Baudets.
Mmh.
Et j'avais fait une soirée poésie où j'avais fait venir Cécile Coulon, la géniale Cécile Coulon. Et elle m'a dit, je lance une collection avec l'iconoclaste qui va s'appeler Iconopop. Et texte bref, texte court, poésie, peu importe comment ça s'appelle.
Ah ouais, c'était parfait, du coup.
Hors format. Et moi, j'avais envie que justement la fée en question qui s'appelle Daria Nelson et qui est plasticienne et photographe, elle ne soit pas que la muse, qu'elle soit la plus que muse. Et du coup, j'ai demandé si on pouvait mettre des illustrations. Donc, elle a fait des collages. Parce qu'on s'était rencontrés en parlant de Gainsbourg, de Vian, mais aussi de Mayakovsky. Et les premiers livres de Mayakovsky étaient illustrés par des collages comme ça. Donc, c'est venu comme ça.
Bon, alors, vous alternez comme ça ces collages, ces poèmes, ces textes.
Et même des textos.
Il y a des textos, effectivement. C'est romantique, c'est drôle. Il y a ce poème intitulé « Poème pour ton cul ».
Et oui.
Mathias, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, je l'ai lu, hein, mais...
Je ne sais pas par cœur, et là, vous me faites rougir en direct. Mais ben oui, il y a des moments où, où en fait, le poétique sort du... C'est comme quand on fait le développement d'une photo, le rapport au contraste. Et le poétique et le tendre, en fait, quand on met soit de la noirceur, soit de l'humour, soit du décalage, ressort encore mieux. Des fois, d'appeler un chat vraiment un chat,
ouais,
ou un cul un cul,
toujours mieux, ouais.
ça permet de faire ressortir le reste de la poésie.
Bien. Yasmina Giaquinto, en Suisse, sans transition, hein, désolé pour vous. Vous avez lu ce livre en avant-première, vous avez adoré le poème du cul.
Ah ouais, je me suis régalée. J'ai adoré participer à cette fête poétique. Je dis fête parce que j'ai eu le sentiment que les mots s'amusaient, jonglaient pour servir l'amour et la coquinerie. Et les mots qui carambolent, qui jonglent entre un cul et un cœur pour servir une fée électricité qui allume votre vie. Vous êtes un vrai saltimbanque des mots pour porter l'amour, mais celui qu'on n'oublie pas.
Merci beaucoup.
Pas mal, très bien. Katia Courtois pour le Canada, êtes-vous d'accord ?
Oui, alors que je n'étais pas tout à fait la bonne lectrice pour ce livre. Et pourtant, au-delà de ça, j'ai apprécié la folie complètement assumée de votre recueil, l'iconographie vintage aussi très réussie qui vient parfaitement s'immiscer à travers vos pages. Et même si on sent des effluves qui nous rappellent les Gainsbourg et évidemment Boris Vian d'un autre temps, votre œuvre est totalement ancrée dans notre époque, c'est réjouissant.
Merci beaucoup.
Vous inventez des choses, Mathias Malzieu, des scènes ou des situations surréalistes à la manière de Boris Vian. Le narrateur imagine son pénis muni de trous de flûte pour jouer une mélodie d'amour, par exemple. Vous imaginez l'orgasmophone aussi, on va s'arrêter là. Et vous écrivez « Les fantômes de mes ex profitent du confinement pour hanter leur ancien chez eux. J'en ai même trouvé un caché sous un œuf qui se caillait les fesses dans le frigidaire. »
Eh oui.
C'est Boris Vian, ça.
Je sais pas. Je l'aime beaucoup. J'ai l'honneur d'être le parrain de son centenaire. Alors, il a été un peu bousculé par le Covid, évidemment, ce centenaire. Même le fantôme doit porter le masque. Mais le fait est qu'on arrive à faire des jolies choses, et notamment encore aux Trois Baudets. Là, on va pouvoir. Carmen Maria Vega va chanter et dire du Boris Vian le mois prochain.
Et vous inventez aussi avec ce livre le concept de poème reportage. J'aime bien ça. C'est le journaliste qui a peut-être réagi, mais le poème reportage, c'est génial.
Bah oui, parce que finalement, c'est l'idée du dérèglement du coup de foudre, du dérèglement joyeux. C'était vraiment ce truc d'être en train de vivre quelque chose et de noter les poèmes comme des impressions, en fait. Comme un journaliste prendrait des notes, comme je peux prendre des fois des notes pour mes romans, ou comme on prend des notes pour un long métrage. Mais là, je faisais à chaque fois des polaroïdes.
Ouais.
Et ce livre, du coup, c'est une suite de polaroïdes comme ça.
Boris Vian, Camille Laurence, ça vous parle ?
Ah bah oui, j'adore.
Il y en a qui détestent Boris Vian.
Ah non, non.
Soit on déteste, soit on adore.
Non, j'adore, mais j'adore aussi le roman inachevé qu'il avait fait, qui a été terminé par
l'Oulipo.
Magnifique. Et c'était vraiment très, très drôle.
Vous n'avez jamais fait de...
Vernon Sullivan.
Jamais fait de livre...
Oui, sur le nom de Vernon Sullivan. Sullivan.
Vous n'avez jamais fait de livre pour la jeunesse, Camille ?
J'en ai fait un pour les tout-petits.
Ah.
C'était un collectif, les 5 doigts de la main. Et j'avais fait le pouce.
Ah oui,
c'est un pouce, un petit pouce qui parle. Alors il se sent un peu isolé parce que voilà, il est à l'écart des 4 autres doigts.
C'est pas mal. Vous avez bien choisi en tout cas. Bon, merci beaucoup, Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, mesdames et messieurs. Oui, plus fort. Allons-y. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse sortira le 7 octobre aux éditions de l'Iconoclaste. Albertine, merci beaucoup. Albertine qui est en train de dessiner Serge Joncourt. On vous mettra ça sur Internet, c'est promis. Merci Albertine. Séraphine, l'anniversaire, c'est à la joie de lire. Et je l'offre à Mathias. Tiens, voilà. Cadeau. Merci à vous. Avant de recevoir le Suisse Adrien Gygax pour un court roman poignant sur le temps qui passe et la fin de nos vies, restez avec nous, ce ne sera pas glauque, je vous promets. Voici le tout nouveau titre de Gaël Faye dans la librairie francophone et on revient ici à Morges au festival Le Livre sur les quais.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
C'était le nouveau titre de Gaël Faye, Respire, dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Ici à Morges, au festival Le Livre sur les quais, en public, avec 40 personnes, puisque c'est limité. Ils font du bruit pour 200, c'est magnifique. Bonjour Adrien Gygax.
Bonjour.
Comment allez-vous Adrien?
Très bien, merci beaucoup.
Voici donc un court récit sur la fin de vie d'un vieil homme, paru chez Grasset. Alors moi j'entends cette présentation à la radio, j'éteins ou je mets de la musique. Je vous avoue que je n'avais pas du tout envie de lire cette histoire. Et pourtant c'est drôle, c'est lumineux et assez neutre sur le plan médical. On ne le voit pas dépérir, il porte juste un regard sur la vie qu'il a vécue. Et cela nous parle. On se projette comme ça dans nos propres vies. Vous imaginez d'ailleurs qu'on a trouvé ce texte dans les affaires d'un pensionnaire de maison de retraite après son décès. Vous avez 30 ans, Adrien, c'est ça à peu près?
Oui.
Comment à 30 ans, on se dit qu'on va faire une histoire comme ça sur un vieux qui va mourir?
Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison interne, on va dire, qui est le fait que la question de la fin m'intéresse beaucoup. Donc, la fin de la vie. Donc, nécessairement, étant pas concerné à 30 ans, je me suis plutôt intéressé aux personnes qui le vivent dans les lieux qui sont dédiés à ça. Et puis la raison externe, c'est que j'ai été amené à fréquenter des EMS, des EHPAD, et puis à voir ces personnes, à les voir vivre, à les observer, et puis à me poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Et puis il y a une autre raison qui est que je suis un peu irrité par le jeunisme ambiant, même si j'ai 30 ans. Et
oui,
que,
c'est ce que j'allais voilà. dire. Oui.
Et je me dis que des fois, il y a beaucoup de sagesse dans ces personnes qui ont traversé la vie et puis que ça mérite de les écouter un peu.
Alors c'est vrai qu'il dit beaucoup de choses. Il dit que dans la vie, on se sent responsable de tout. On porte trop de choses sur les épaules. Et puis on possède, comme une addiction, on se charge d'objets, de matériel. On est ce qu'on possède. Alors que si on s'allège, finalement, on voit la vie autrement.
Oui, exact. Ça commence par un petit chapitre qui s'appelle « Lâcher prise ». Et puis le but, c'est ça, c'est d'imaginer. On peut aussi le faire à 30 ans, à 25, à 60. Lâcher prise pour justement quitter un petit peu ces injonctions à toujours être performant, à toujours pouvoir assumer une grande dose de stress, toutes ces choses qu'on entend, et puis pouvoir se dire que si on lâche un peu, si on se laisse un petit peu aller à n'importe quel âge, et puis qu'on comprend qu'on fait partie d'un cycle qui nous mène vers une fin, on peut peut-être vivre une vie des fois plus légère et un peu plus douce.
Alors on l'a vécu pendant le confinement ça, parce qu'on s'est tous retrouvés avec très peu de vêtements, très peu de chaussures, avec juste l'essentiel. Et on a réussi à vivre sans problème. Pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps pour se rendre compte de ça? Parce que votre vieux monsieur, il a plus de 80 ans. Pourquoi on se rend compte si tard de ce qui nous encombre?
Alors, je ne sais pas si on s'en rend nécessairement compte si tard. À mon avis, on peut s'en rendre compte assez vite, ça dépend. Mais c'est vrai que notre époque a plutôt tendance à nous faire penser qu'on doit consommer, qu'on doit consommer, qu'on doit posséder. Mais je pense qu'on a réalisé, en tout cas ma génération l'a réalisé. Puis c'est un peu ce que disait cher Joncourt avant, quand il parlait justement de cette idée de revenir un peu à l'essentiel, de ne pas être obligé de prendre l'avion, d'aller à gauche, à droite. Donc je pense que notre génération, elle est en train de faire ce travail-là, de se dire on peut s'alléger un petit peu et on n'est pas obligé d'attendre, d'être obligé de le faire.
Ouais. Seul le vieux vin trouve grâce aux yeux de votre narrateur, car le vin a une histoire. Il est une histoire. Il a gardé 6 bouteilles de très bon vin.
Oui, il garde les années importantes pour lui. Et puis c'est une manière pour lui, à travers la matière, de retourner dans ces années-là et de revivre quelques souvenirs avec des amis qui sont là et qui vivent aussi leurs derniers jours avec lui.
C'est assez joli d'ailleurs, hein, parce qu'il respire le vin. Il ne le boit pas forcément, et rien qu'à l'odeur, ça le renvoie dans l'année du vin, en fait, l'année, la date du vin. Bon, on va voir du côté de nos libraires, parce que comme Mathias Malzieux, vous n'avez pas eu de chance, hein, vraiment Adrien, votre livre est sorti début mars en même temps que le film. Ce serait dommage de passer à côté, c'est pour ça qu'on vous donne une nouvelle chance aujourd'hui. Et les libraires, eh bien, on leur a dit, lisez ce livre. Katia Courteau, elle est au Canada, elle va nous dire ce qu'elle a pensé de votre ouvrage. Katia.
Oui, alors écoutez, j'ai adoré. Dès les premières lignes, j'ai aimé le ton de ce personnage en fin de parcours, son humour, parfois acerbe même, son cheminement aussi, et votre plume habile. Je ne sais pas à quel moment exactement ça opère, mais vos mots s'imprègnent petit à petit en nous et nous amènent à voir notre propre vieillesse autrement. J'ai même eu parfois l'impression de lire pratiquement un essai dans lequel vous auriez laissé la parole à un tiers, tant votre roman est réflexif. Pour moi, ça a été un roman qui m'a fait beaucoup de bien, un livre dont on sort apaisé.
Voilà, Adrien. Bravo. Vous pouvez applaudir à Adrien Gygax.
Je dis, je peux mourir après ça, c'est bon.
Ah, pas tout de suite quand même, Adrien. Vous avez 30 ans, 31 ans. Mathieu Colombe pour La France, êtes-vous d'accord?
Oui, c'est un livre qui pousse à la réflexion. Bon, vu le sujet, on peut s'y attendre. Et effectivement, en le lisant, on finit par avoir envie de se poser des questions sur le nombre de nos choix de vie. Et ça en devient même parfois assez émouvant. Par contre, moi, je pense qu'il peut changer la vie de ses lecteurs.
Voilà, se réjouir de la fin d'Adrien Gygax aux éditions Grasset. Il est question des souvenirs dans ce petit livre, Adrien. Votre personnage a appris à saisir les petits souvenirs bien plus intéressants que les grands souvenirs. Pourquoi ?
Parce que les grands souvenirs sont toujours les premiers qui nous reviennent en mémoire quand on pense à quelque chose. Et puis si on prend un peu le temps, on s'arrête, on éteint les écrans, le bruit qui est autour de nous, et puis on se concentre sur ce souvenir, il y en a d'autres qui viennent qui sont plus petits, plus délicats, et puis qui sont aussi des fois plus émouvants parce qu'on a moins l'habitude de les croiser.
Ouais. La mort, dit-il, ne parvient pas à bout des sentiments aussi. On a des sentiments toute sa vie, il y a des petits souvenirs aussi de ces sentiments-là. On continue à aimer jusqu'à la fin et parfois, on aime en mémoire. Qu'est-ce que c'est aimer en mémoire, Adrien Gygax?
Alors aimer en mémoire, c'est l'idée qu'on ne cesse jamais d'aimer une femme, même quand l'histoire s'est terminée, qu'on peut continuer à l'aimer en aimant les souvenirs ou en aimant la personne qu'on a été avec elle. Et pour avoir un peu échangé avec des personnes très avancées dans la vie, l'amour, c'est pas seulement, même si on a parlé d'érotisme aujourd'hui, mais c'est pas que l'érotisme et le corps et puis ce qu'on vit à 30 ans, c'est aussi toute l'histoire qu'on a en mémoire qu'on peut reconvoquer pour continuer à aimer.
Camille Laurence, la présidente d'honneur du Festival de Livres sur les Quais, vous êtes d'accord avec ce que dit Adrien?
Oui, complètement. Oui.
Vous aimez en mémoire, vous aussi?
Bah, j'aime en réalité et en présence aussi. Hein. Je suis pas encore entièrement dans le souvenir.
Il y en a un qui aime en mémoire, je suis sûr. C'est Mathias Malzieux.
Bien sûr, mais j'ai, comme Camille, j'ai pas trop encore envie de me retrouver sur les étagères.
D'accord.
Et j'ai envie d'être encore dans le moment présent, mais effectivement, ce moment présent est nourri des souvenirs. Que souvenirs et fantômes, c'est la même chose.
La vie, c'est aussi une succession de peines, Adrien Guigax. Plus on avance dans la vie, plus on connaît des douleurs, parfois insurmontables, mais d'autres incurables. Pourtant, dit votre personnage, on est heureux quand même. On arrive à l'être, finalement.
Oui, alors ça, c'est un pari que je fais. J'ai 30 ans, donc les gens pourraient me dire que j'en sais rien, finalement, ce qui est vrai. Mais c'est le pari que je fais en prenant un peu une éthique qu'on pourrait dire épicurienne, en disant que on est finalement responsable de ce qu'on peut choisir, et on peut choisir ce que les peines ont comme effet sur nous et puis ce qu'on en garde ensuite émotionnellement. Et puis c'est cette idée-là, c'est de dire finalement on traverse la vie, on arrive au bout et puis on n'est pas encore couché, on est encore là, on est encore vivant. Et puis il y a un plaisir, il y a une douceur là-dedans, et il y a même une réjouissance, d'où le titre, se réjouir de la fin, parce qu'on peut s'en réjouir, c'est pas nécessairement une crainte.
On va terminer avec la phrase de cette fin de semaine et de rentrée. Vous écrivez, page 85, « Il ne faut pas regretter l'été qui se termine, mais se réjouir de celui qui arrive. »
Ouais, bah là, il se termine, en l'occurrence.
Et oui, ça donne le moral, du coup.
Ouais, tout à fait, mais il faut le lire en entier.
Merci, Adrien Guigax, mesdames et messieurs. Merci. Dans la librairie francophone, avec « Se réjouir de la fin ». Paru chez Grasset. Merci Adrien, à très bientôt.
Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires avec la suite des coups de cœur et des coups de gueule. Déborah Damblon en Belgique, la suite d'un coup de gueule de la saison dernière. C'est comme les séries, cette émission, il y a des suites et des saisons. Allez-y.
Exactement, parce que c'était déjà la suite de la suite.
Oui, c'est vrai.
Vous avez oublié Emmanuel, c'est pas grave.
Non, pas du tout.
Mais en même temps.
Je fais court.
Donc vous vous souvenez que la saison passée, je m'étais agacée du manque de soutien des Belges à leur propre littérature. Alors, est-ce que c'est nous qui avons été entendus ou est-ce que c'est le hasard du calendrier? Mais au seuil des vacances, il y a des initiatives qui ont fleuri en visant à promouvoir la littérature belge. Si. Et figurez-vous qu'elles ont même eu du succès. Alors vous allez me dire, où est le coup de gueule là-dedans?
Oui, vite.
Eh bien,
on est en retard.
Eh bien, c'est un coup de gueule contre les coups de gueule, Emmanuel.
Très bien.
Pourquoi est-ce qu'il faut toujours s'énerver pour que l'évidence devienne évidente?
Avec la cloche de l'église qui sonne à côté de nous, c'est parfait. Katia Courtois est au Canada. Un coup de cœur poésie pour conclure, Katia. Très vite.
Oui, un énorme coup de cœur pour le recueil de poésie de Tania Langlais, publié aux Herbes Rouges, Pendant que Perceval tombait. À chaque fois que j'en parle, j'en suis encore fébrile. C'est magnifique. Alors, elle se penche un peu sur la fin tragique, les derniers moments de Virginia Woolf et de l'un de ses personnages du roman Les Vagues. Elle arrive dans une poésie narrative à nous raconter cette histoire, mais à nous parler aussi de l'humain, de nous. Il y a de la douleur lancinante, le temps qui s'allonge et se cambre, mais de la lumière aussi, plein de lumière qui s'immisce partout, tellement c'est beau.
Ça a l'air, hein. Ça va donner le moral, ça. Tania Langlais, Pendant que Perceval tombait, aux éditions Les Herbes Rouges. Merci beaucoup, Katia. Merci à tous nos libraires. Merci à vous. Merci. Avant de conclure, le son de la francophonie avec l'une des musiques les plus écoutées quelque part dans un pays membre de l'OIF. Voici le chanteur Burna Boy, qui est numéro 1 en ce moment au Niger.
If you like me, say hello, hello. If you like me, can tell you. I don't mind if you bend, bend. I don't get the time to pretend, no. Anything you like me, can tell me. Based on the buy or the shy, you. Tutu, tutu, tutu. Bobo, tengo te pamu, tutu. Bobo, tengo te shabu, tutu. Bobo, start to the call, the people. Bobo, my love, time, let me. I say once again, as I come to place, everything you take, now by God's grace, I'm on time, they run away, they go to the lake, so from Johnny P, making clear, yeah, 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 what you gonna do when I get back? Left and you don't take a trespass. You better be cool and dress back. Now what you gonna do?
Now that I'm available, snapping right in front of you. The battle pay and shit, Oluwa, but now I'm on you. Go, I'm to go. Where would then go take I'm to go? Where would then go take shabu to go? Where would start to the call the people? Where would my love time in the
C'était le Nigérien Burna Boy avec Bebo, titre phare en ce moment au Niger. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci au public de Morges, ici au Livre sur les Quais et à toute l'organisation du festival. Merci à vous, merci à la réalisation Cyril Pascal avec Gilles Ozaman et Jérôme Nussbaum ici à Morges, à la rédaction Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Jean-Marie Félix en Suisse, René Mikils avec Valérie Deput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, retour en studio avec Philippe Djian, Patrick Besson et la Belge Mathilde Allais. Bonne semaine, bon week-end à tous. Au revoir.